Blabla, blabla, blabla futile. Bienvenue sur Blabla futile.
Il était là, à me lancer métaphoriquement un regard insistant et plein de jugement, coincé entre un mal de Sofinco qui tient absolument à me prêter de l'argent pour mes futurs projets, alors qu'il me refusait un paiement en 4 fois pour 80 € sur Amazon il y a 3 jours, et un autre mail d'une boutique spécialisée pour adultes consentants qui m'annonçait l'arrivée en stock de leur nouveau produit d'un triomphal. Enfin, les plugs emojis sont là! Parce qu'on les attendait tous, non? Enfin, je veux dire, qui n'a pas envie de... Bref. Et entre les deux messages susnommés, le mail Pôle emploi qui me propose une formation de cuisinier. Voilà, inutile de vous préciser que j'ai d'abord cliqué sur le mail avec les plugs, hein, ne serait-ce que pour savoir à quoi ça ressemble, et que je me suis régalé avec des accroches publicitaires savoureuses du style « Faites rimer plug avec fun » et le magnifique « Plug emoji, égayez votre cul ». Avant de me lancer dans une grande réflexion en trois actes, quel est l'intérêt du plug emoji? Qui a eu l'idée du plug emoji? Et enfin, qui va acheter et surtout utiliser ce produit? Voilà, je n'ai la réponse à aucune de ces questions. Et puis bon, bah, j'ai fini par me pencher sur le mail Pôle emploi, la mort dans l'âme et la tension au bide. Pas à cause de la formation de cuisinier, non, ça me dérange pas. Je trouve même pas ça absurde que Pôle emploi me propose une formation de cuisinier. C'est même logique, la dernière fois que j'ai vu un conseiller Pôle emploi, c'était en février 2020 et je venais de sortir d'un entretien pour être commis de cuisine. Non parce que j'avais des velléités de finir un top chef, c'est juste parce que c'était pratique. Le resto en question était fermé tous les lundis, donc je pouvais programmer une représentation de mon futur spectacle le lundi et travailler le reste de la semaine pour payer les pertes de mon futur spectacle. Voilà, on était plus dans un choix pratique que sur une véritable vocation. Et puis surtout sur un véritable pif d'élaborer un projet de vie reposant sur le théâtre et la restauration à la mi-février 2020. Alors je ne suis pas en train de dire que la pandémie est une attaque personnelle à mon encontre, mais si on m'annonce que tout ça, ça a commencé avec un type qui ne m'aime pas du tout et qui, très en colère contre moi, a décidé de faire un voyage en Chine pour se détendre et au passage essayer les spécialités culinaires du pays, je ne serais pas complètement étonné. D'autant qu'il y a un précédent. Il y a quelques années, pris d'un enthousiasme fou, je m'étais dit « Vas-y, crois en toi, fais les dernières modifs de ton spectacle, fais une italienne et lance-toi ». Une heure et demie plus tard, ma mère m'appelait au téléphone pour savoir où j'étais. On était le 13 novembre 2015 et il était 22h. De là à dire que mes velléités artistiques provoquent des catastrophes nationales dans un premier temps, puis mondiales quand je m'acharne, c'est un pas que je ne franchirai pas. Verbalement en tout cas. Intérieurement, la culpabilité me ronge. Pour en revenir au mail, la question n'est pas de savoir si oui ou non je postule à la formation. Hein, la réponse est évidemment non. Pas par mépris pour la cuisine, hein, juste que je ne sais pas cuisiner. Ou pour être plus précis, je peux éventuellement faire du mangeable, mais pas du joli. Enfin, je veux dire, je suis incapable de faire ne serait-ce qu'un œuf au plat qui ressemble à un œuf au plat. Objectivement, c'est pas de bon augure pour une carrière derrière les fourneaux. Et puis en vrai, c'est pas le mail Pôle emploi. Hein, c'est ce que représente le mail Pôle emploi, la question qu'il y a derrière. Qu'est-ce que je vais faire de ma vie? Ou plus pragmatiquement, qu'est-ce que je vais faire pour gagner ma vie? Payer mes factures, remplir mon frigo, éventuellement acheter un plug emoji. Seulement 14,99€, la dilatation et le fun à la portée de toutes les bourses, métaphoriquement, littéralement et géographiquement parlant. C'est surtout que chercher, voire pire, trouver une réponse à cette question viendrait à faire le deuil, à prendre une décision irrévocable, j'arrête ou pas. Le métier de comédien, je veux dire. Même si dans les faits, ça va bientôt faire 5 ans que je peux monter sur scène, je crois qu'on peut dire que techniquement, j'ai arrêté. Et je suis à peu près en paix avec l'idée, hein. Reste juste la petite voix. Ouais, plus compliqué, la petite voix. Petit flashback, septembre 2004. Première journée de cours pour les élèves de première année du cours d'art dramatique Jean Périmony. Le susnommé Jean Périmony s'avance devant les 70 élèves entassés dans l'entresol d'un immeuble réaménagé en salle de cours et déclare « Aujourd'hui, vous êtes 70. Dans 10 ans, vous serez 3 à vivre de ce métier. Pas être une star, hein, juste vivre correctement de ce métier. » Et en face de lui, 70 personnes qui pensent en leur fort intérieur « Ouais. » T'inquiète, Pépé, je gère. Et bien sûr que je serai un de ces trois-là. Et vous l'aurez probablement compris, ben j'étais un de ceux-là. Et alerte divulgachage, tout ne s'est pas passé comme prévu. Mais alors, pas du tout. Et pas parce que sur ma promo, il y en a plus de trois qui, 15 ans plus tard, vivent correctement de ce métier. Hein. Je crois que je peux en citer 6 ou 7. Bon, les autres, j'avoue, je suis moins au fait de l'origine de leurs revenus. Hein. Je crois qu'il y a quelques reconversions dans le yoga et le massage bien-être, hein, si j'en crois Facebook. Et je ne juge pas, hein. Moi-même, je ne sais pas ce que je vais faire maintenant, va savoir ce que je vais faire dans 3 mois. Ouais, va savoir. Mais en vrai, je crois que les emmerdes ont commencé bien plus tôt pour moi. Bon, c'est un peu gênant, mais on va dire qu'il y a prescription. Voilà, quand j'avais 19 ans, j'ai fait un plan de carrière. Littéralement, je veux dire, j'ai pris une feuille et j'ai écrit ce qui allait m'arriver. J'avais même daté le délire, il me semble que ça commençait en 1999. Ce qui veut dire que je m'étais quand même donné 2 ans pour réussir. C'est bien, j'avais vu large. Bon, ce qui est important à savoir, c'est que mon premier film, ça allait être Indiana Jones 4. Oui, puisque je jouais le fils d'Indiana Jones. Voilà. Ouais. En 1997, seul dans ma chambre d'étudiant en Villeneuve-d'Ascq, avec ma petite feuille et mon petit stylo, j'avais imaginé qu'on aurait un Indiana Jones 4 où Indy aurait un fils. Et c'est pas parce que je jouais dedans, mais laissez-moi vous dire que mon Indiana Jones 4 avait beaucoup plus de gueule que celui qu'on a eu au final. Bah déjà, mon personnage était bien plus attachant que celui de Shia LaBeouf. Hein. C'était un rat de bibliothèque qui travaillait au service documentation du Louvre, pas du tout porté sur l'aventure, ce qui créait une vraie opposition avec Harrison Ford. Et puis le film était bien mieux construit, plus rythmé, il n'y avait pas de conneries d'extraterrestres, d'explosions nucléaires avec des frigos ou des fourmis rouges. Et puis il y avait des vrais moments d'émotion, puisque à la fin, je mourais. Ouais, c'est d'ailleurs pour ça qu'Indiana Jones prenait sa retraite. Il raccrochait le fouet, le chapeau. Inconsolable après mon décès, fauché par la balle perdue d'un espion russe dans les ruines de l'Atlantide. Oh. Épique, je vous dis. Bon, bah, inutile de vous dire que comparé à ça, mon avenir était appelé à être une insondable déception chaque jour renouvelée. Et ça, c'était les débuts, c'est con, j'ai perdu la feuille, je me souviens pas de la suite, mais je ne doute pas un seul instant qu'il était question de César, d'Oscar, peut-être même un Grammy, si ça se trouve. Je me lançais peut-être dans la musique. On n'est pas sérieux quand on a 19 ans. Bon alors, à ceux qui sont outrageusement en train de se foutre de ma gueule là maintenant tout de suite, 2 choses. Évidemment que ce n'est pas réaliste. Et je pense qu'intérieurement, mon moi de 19 ans le savait. Bon, moi déjà, je pense que quand ils s'imaginaient faire risette sur le tapis rouge à côté d'Harrison Ford, ils pensaient qu'en toute la tête, il y aurait le corps de Brad Pitt ou de Justin Timberlake. Un corps commercialement vendeur, quoi. Pas de marasme complet que représente mon enveloppe corporelle après 2 années de confinement. Et puis surtout, mon moi de 19 ans, il savait pas ce que c'était que ce métier. Enfin, je veux dire, il mettra même des années avant d'oser passer la porte de son premier cours de théâtre. Et il décidera vraiment de faire ce métier après avoir joué dans sa première pièce, presque 10 ans plus tard, après une seule semaine de représentation, avec l'enthousiasme de la première, la déception de la deuxième, la perplexité de la troisième, le jeudi où personne ne rit, et le vendredi où ça cartonne parce que tes potes sont venus et qu'ils en font des caisses. Le tout sans gagner un seul centime. Le métier, le vrai, quoi. Et puis surtout, on m'ôtera pas de l'idée que quand tu décides de devenir comédien, c'est parce que tu rêves grand, hein, démesuré. Je veux dire, personne ne se lance dans ce métier avec pour but ultime être le mari de la victime qui a 12 répliques dans un épisode des Cordiers jugés flics. Et oui, je sais que les Cordiers jugés flics, ça passe plus à la télé depuis plus de 20 ans. Mais au moins là, je suis sûr de vexer aucun de mes potes. Parce que c'est ça, la beauté de mon quotidien. Ah oui, désormais, la moindre soirée TV ou la moindre sortie ciné peut se transformer en champ de mine émotionnel à n'importe quel moment. On sait jamais sur qui on va tomber, au détour d'une page de pub, d'un épisode d'HPI ou des Tuchecats. C'est d'ailleurs pour ça que j'évite le cinéma français comme la peste. Et le plus souvent encore, ça va. Enfin, je veux dire, c'est des gens que j'aime bien, ou au pire, que j'apprécie. Bon, il y a aussi des gens que je déteste qui font carrière. Mais objectivement, d'un point de vue purement personnel, je n'ai rien à reprocher à Léa Seydoux ou Timothée Chalamet, qui ne m'ont, à ma connaissance, fait aucun coup de pute, pour la simple et bonne raison qu'on ne se connaît pas. Mais ça ne m'empêche pas de les détester de manière viscérale et totalement gratuite. C'est quand même bizarre de se dire qu'il y a quelques années, j'ai partagé la scène avec des gens qui, aujourd'hui, sont nominés aux Molière ou autres César de meilleur espoir masculin. Et moi, bah, j'ai pas bougé d'un iota. Alors que chaque jour qui passe m'éloigne un peu plus du César du meilleur espoir, ne serait-ce que pour une question d'âge. Puis soyons clairs, en toute honnêteté, je suis absolument ravi pour eux. Hein, vraiment, je suis heureux. Je ressens même un sentiment de fierté, alors que franchement, j'y suis pour rien. Et puis je peste devant ma télé quand ils n'ont pas le prix au final. Mais si je suis vraiment, complètement, absolument honnête, je dois bien admettre qu'au fond du fond, du fond, du fond, du fond, bah, ça fait un peu mal au cul. Voilà. Pas parce que je pense qu'ils ne le méritent pas, hein, c'est juste que moi aussi, j'aurais bien voulu tout ça, quoi. Hein. C'était d'ailleurs un baromètre que je m'étais assigné assez rapidement dans ma carrière. Oui, là, vous ne me voyez pas, mais j'ai fait le signe des guillemets avec les doigts hein, quand j'ai prononcé le mot « carrière ». J'ai toujours dit que le jour où j'arriverai plus à me réjouir du succès des gens que j'aime, bah ça serait la preuve que l'aigreur a pris le dessus et que ça serait le moment d'arrêter. Peut-être aussi un peu pour ça que je suis pu monter sur scène depuis longtemps. L'aigreur, ou plutôt la peur de le devenir. Aigre. Aigri. Non, parce que aigre, c'est si quelqu'un me lèche et que j'ai mauvais goût, donc ça n'a rien à voir. Voilà, l'aigreur, et puis un peu de sagesse aussi. Parce que si la folie, c'est de répéter les mêmes erreurs, en espérant des résultats différents, il y a un moment où j'ai fini par me dire qu'il n'était peut-être pas très sain de continuer de me fracasser la tête contre le même mur en espérant qu'il s'effondre pour arriver comme par miracle à faire mon intéressant sur la scène du théâtre du Châtelet. Sauf que, ben, y a la petite voix qui me dit « On sait jamais ». Alors, faut savoir que pour moi, dans la vie, il y a deux types de personnes. Il y a ceux qui avancent dans la vie en mode toc toc, hello, c'est moi. Et puis, il y a ceux qui sont plus en mode excusez-moi de vous déranger, je ne fais que passer, vous en faites pas, ça va pas durer longtemps. Et je ne fais pas partie de la première catégorie, loin de là. Et je ne vais pas dire que faire partie de la deuxième catégorie m'a empêché de faire carrière, mais un peu quand même. En fait, si je regarde en arrière, mon seul projet qui a marché, j'étais pas moteur, je prenais pas de décision. Mon seul avantage a été d'avoir choisi des personnes qui ont poussé le projet le plus loin possible, et quand par la suite j'ai été en charge sur les projets suivants, ça a été des échecs, parce que, excusez-moi de vous déranger, vous en faites pas, ça va pas durer longtemps. De la même manière, c'est pas qu'on m'a jamais donné ma chance, j'ai le souvenir d'audition, j'ai métaphoriquement fait caca par terre, parce que là aussi, excusez-moi de vous déranger, vous en faites pas, ça va pas durer longtemps. En fait, quand je regarde en arrière, c'est pas tant des échecs que je vois, mais des regrets. Il y a tant de gens auprès de qui j'ai envie de m'excuser de leur avoir fait perdre du temps. Typiquement, excusez-moi de vous déranger, vous en faites pas, ça va pas durer longtemps comme comportement. Et c'est probablement aussi pour ça que j'ai du mal à me dire que tout ça c'est fini, à mettre un point final. Parce que si je me relançais et que j'obtenais ne serait-ce qu'un modeste succès, bah ça excuserait tout le reste, tout prendrait sens. Ça serait comme une sorte d'absolution. Et en plus, ça serait une belle histoire à raconter pour mon portrait dans 50 minutes inside. C'est ça qu'elle me raconte, la petite voix, quand elle dit « Mais on sait jamais, imagine, ça peut marcher. » Bref, pourquoi je vous raconte tout ça? Pas juste pour le plaisir de me plaindre, encore que j'adore ça. Non, c'est parce que je me dis que ça pourrait être utile. Je m'explique. On a tous entendu ces légendes urbaines sur les métiers artistiques auxquels on se raccroche quand les choses sont difficiles, du genre Harrison Ford était charpentier quand il a été découvert à 35 ans par George Lucas, ou autre Louis de Funès a connu le succès à 55 ans. Ouais, il est bien pratique, Louis de Funès. Putain, 55 ans, c'est génial, ça te laisse une marge. Sauf quand on comprend qu'il a bossé pendant 20 ans pour être connu du jour au lendemain. De la même manière, on entend parler de ces artistes maudits dont le talent fut reconnu après leur mort, Van Gogh, Emily Dickinson et j'en passe. Du coup, on fait des séries et des films sur eux. Et puis, on a aussi les tristes histoires d'artistes qui ont connu un bref moment de gloire avant de retomber dans un anonymat souvent glauque. Bon, alors là, je sais que la liste est longue, mais je ne sais pour quelle raison. Le seul exemple qui me vient, c'est l'intégralité du casting d'Arnold et Willy. De la même manière, on entend parler d'Elijah Wood, qui s'est déguisé en Hobbit pour son audition du Seigneur des Anneaux et qui a eu le rôle. Mais on n'entend jamais parler de Gordon Shumway qui avait mis son slip au-dessus de son jean pour passer son audition de Man of Steel, qui a mis tout le monde terriblement mal à l'aise, et du coup, quand Henry Cavill a eu le rôle, Superman n'avait plus de slip rouge. Cette anecdote est évidemment fausse, hein, elle est juste là pour illustrer mon propos. Et accessoirement, Gordon Shumway, c'est le véritable nom de Alf. Tout ça pour dire que dans l'inconscient collectif, il y a toujours un moment de gloire, de brillance, de succès, fut-il furtif ou posthume. On n'a pas cette légende urbaine du type qui a essayé, qui y a cru, qui s'est battu, mais qui n'a connu que l'échec, et qui n'a jamais réussi à quitter l'anonymat jusqu'à la fin de ses jours. C'est normal, hein, parce que déjà, c'est une réalité que personne n'a envie de voir, et surtout, des gars comme ça, il y en a plein, et c'est tous des anonymes. Et c'est ça qui est dommage. On n'a pas un mec, dont on a le nom, qui est connu pour la seule et unique raison d'avoir tout foiré dans sa vie, et qui peut nous servir de référence, une sorte d'échec symbolique à laquelle se référer. Et c'est pour ça que je décide de me nominer dans ce rôle-là. Oui, alors on est d'accord que si on cherche, on trouvera plus glorieux, plus romanesque, plus batailleur que moi, sans aucun doute. Mais en attendant, il n'y a personne pour revendiquer la place, il y a un vide, donc je m'y mets. Voilà, voyez ça un peu comme mon don à la société, ma contribution à la civilisation humaine. Grâce à moi, plus de... Si tu travailles pas à l'école, tu finiras caissière, comme madame, ou autre. Tu vas faire quoi plus tard, ramasser les poubelles? Voyez, toutes ces petites phrases puant le mépris de classe que tout parent a brou face à son enfant branleur utilise un jour ou l'autre en se sentant parfois coupable après. Bon bah grâce à moi maintenant, on pourrait dire « Inès, t'as encore eu les avertissements de travail ce trimestre? Tu veux finir ton cabanis ou quoi ?» Sans avoir le moindre sentiment de culpabilité après. Non vraiment, faut que tu te reprennes en main parce que là on dirait cabanis, c'est n'importe quoi. Ou autre « Écoute Michel, ça peut plus durer. Alors tu te lèves, tu enlèves ce pantalon de jogging, tu prends une douche et tu redeviens l'homme que j'ai épousé. » Ah, parce qu'il y a 15 ans, c'est pas à Cabanis que j'ai dit oui devant l'adjoint au maire de Brive-la-Gaillarde. C'est à toi. J'adore. Je veux ce rôle. Non mais vraiment, ça me ferait plaisir. Je me sentirais utile, tout ce marasme me servirait enfin à quelque chose. Et en plus, tel que je me connais, je serais foutu de bien le vivre. Voir, ça pourrait même me faire marrer. Non vraiment, songez-y, je propose vous disposer. Et puis en plus, pardon, mais je pense en toute humilité qu'on peut tirer quelques leçons de mon parcours. Si. Lesquelles ? je m'attendais à la question. Déjà, l'utilité d'avoir un plan B. Pour éviter le mail Pôle emploi en formation cuisine, par exemple. Même si quelque part, je ne suis pas persuadé de ce que je suis en train de dire. Parce que peut-être ne pas avoir de plan B, ça te force à réussir. Mais en même temps, si ça foire, c'est quand même bien d'avoir un plan B. En tout cas, une chose est sûre, je pense que pour réussir, faut avoir la dalle. Parce que moi, si j'avais pas eu mon boulot alimentaire pour payer mes factures et me faire bouffer, bah, je me serais probablement battu pour faire des pubs pour le yaourt ou les saucisses Herta, pour des rôles que j'ai pas envie de faire, genre le truc un peu gênant dans un épisode du jour a tout à basculer. Et ça aurait été beaucoup plus utile pour ma carrière, entre guillemets, que d'écrire des pièces seules dans mon coin que personne veut jouer. Et puis, si vous faites partie de la catégorie des gens qui s'excusent de vivre, alors je ne suis pas en train de dire que ça ne va pas marcher. Il y a plein d'exemples qui prouvent que c'est possible. C'est juste que ça demandera des efforts surhumains et constants, crevants sur le long terme. Bon, perso, j'en ai pas été capable, mais ça ne veut pas dire que vous ne pourrez pas le faire. Voilà, en résumé, on va dire que si vos parents insistent pour que vous fassiez des études, faites des études qui servent à quelque chose. Parce que moi, je veux bien qu'il faut viser de la lune, comme ça on est sûr de tomber dans les étoiles. Oscar Wilde. Mais en vrai, bah, on peut viser la lune, louper les étoiles et se ramasser méchamment la gueule sur le bitume. Et le faire avec une licence art du spectacle option scénariste qui ne sert absolument à rien dans la vraie vie, et bah, ça rend pas le bitume plus malléable, bien au contraire. Voilà, après pour le reste, bon, bah, je vous laisse tirer vos propres conclusions sur mon parcours, hein, c'est le jeu. Et puis bon, je vais pas faire tout le boulot à votre place. Mais vraiment, sentez-vous libre, et puis surtout n'hésitez pas à adapter aux besoins, moi je suis malléable, je m'adapte. Hein. Puis vous inquiétez pas pour moi, hein. Moi je vais bien, je suis pas à plaindre, loin de là, je vis relativement bien mon échec, d'autant plus maintenant que je sais qu'il va potentiellement servir à quelque chose. Donc vraiment, lâchez-vous, faites-vous plaisir, quoi. Non, mon échec, c'est cadeau. C'est plaisir d'offrir, joie de recevoir, you're welcome. Et puis si vraiment vous culpabilisez, dites-vous bien une chose. Si vous êtes en train de m'écouter, ça veut dire que j'ai lancé ce podcast que je ne m'autorisais pas à faire depuis plus de 2 ans. À base de « Pour qui je me prends pour faire un podcast? Qui va m'écouter ?» Enfin, je veux dire, ça n'a pas de sens. Terriblement, excusez-moi de vous déranger, mais vous en faites pas, ça va pas durer longtemps comme comportement. Ça veut donc dire que je me suis bougé un minimum. C'est positif. Voilà, je suis dans une nouvelle phase. Bon après, simple hobby ou véritable projet de reconversion professionnelle, je vous avoue que j'en sais rien à l'heure où j'écris ces lignes, et encore moins à celle où je les lis pour les enregistrer. En vrai, le seul truc que je sais, c'est que la vie n'a aucun sens, et ma seule certitude, c'est qu'à la fin, on meurt. Voilà. Je sais, pas très joyeux. Donc, je me dis que si quand je casse ma pipe, j'ai pas trop de regrets, j'ai été un peu utile, j'ai des sous-vêtements propres et pas de plug emoji dans le cul, franchement, ça voudrait dire que je m'en suis pas trop mal sorti. Oui, alors je me suis senti obligé de refaire une référence sur le plug pour créer une sorte de symétrie avec le début, et du coup je m'en rends bien compte que... Enfin voilà, c'est pas... Voilà, je sais, hein, et je recommencerai plus. Promis. Bisous.